should go. Kilo shines and touches all.
Voilà, c'est avec ce magnifique chant, on peut dire même en live, à la grotte du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes par Emma, en anglais, puisque je crois, David Torchala, que la comédie musicale Bernadette de Lourdes va partir de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, c'est ça, à partir de février, il y a une première date à Chicago, wow. Et puis une tournée dans les grandes villes. Alors c'est fou parce que le commissaire Jacomet avait dit à Bernadette à l'époque, Bernadette, tu feras courir le monde. Ben écoutez, nous aurons 2026. D'ailleurs, pour cette tournée, et voilà, Bernadette ne dément pas. La troupe est là en promotion avec des télévisions américaines et a choisi cette date du 8 décembre pour notre plus grande joie, pour l'animation de ce temps, de cet hommage floral à la grotte, et puis hier soir à la procession mariale au flambeau.
Ce qui explique donc effectivement que ce chant a été en anglais pour cette fois. Merci beaucoup à vous, David Torchala, pour avoir bien animé et donné les commentaires de cette belle messe, de cette belle Eucharistie depuis donc
la basilique Saint-Pédis. Oui, il y a eu un déplacement jusqu'au rosaire. C'est vrai qu'il faut suivre l'événement, mais voilà, un beau moyen aussi par notre radio de pouvoir vous faire vivre ces événements qui sont importants. Voilà, malgré la distance, nous restons en communion avec vous.
Voilà, et bien nous, écoutez, on va reprendre ce Présence Midi. Un grand merci à vous, David Torchala, puis à la semaine prochaine pour, bien sûr, l'information religieuse.
Promis, je serai là.
Et on va continuer, cette fois-ci, on va parler de livres avec notre invité, Philippe Irigoyen. On va parler d'une aventure et d'une amitié un peu particulière entre un catholique pratiquant et un musulman pratiquant.
100.2
Bonjour Philippe Irigoyen.
Oui, bonjour Philippe.
Voilà, vous êtes un fidèle de Radio Présence. On vous avait il n'y a pas très longtemps pour faire la promotion de votre Sainte-Cécile, puisque vous êtes le trésorier de la chorale.
Et vice-président,
s'il vous plaît. Et vice-président de la chorale Cécilia, donc la chorale paroissiale pour la ville de Lourdes. Et merci beaucoup de revenir vers nous. On va pas parler de religion, quoique... Quoique, c'est un peu lié.
Oui, ça touche de près.
Puisque vous venez de sortir votre dernier bébé, votre dernier livre.
Le cinquième.
Ah
ben, mine de rien, comme ça.
Et alors, vous qui, au début, en avez fait un, en disant, bon, mais voilà, j'en ai fait. Et vous êtes votre cinquième livre qui s'appelle, alors le titre est un peu spécial, Après les Romains, un Basque ou un catholique chez les musulmans.
Voilà. Eh oui. Les Romains ont envahi le pays, et après c'est un Basque qui est venu. Voilà.
Qui a envahi aussi. Ah, vous tout seul, vous avez envahi l'Empire romain. je vais lire la quatrième de couverture qui va permettre un peu de situer l'histoire de ce livre. D'ailleurs, il y a une belle photo où vous êtes sur une plage avec votre ami, qui s'appelle
Nasser,
voilà. Les Romains y ont construit des villes. Nasser et moi, nous avons bâti un pont d'amitié entre les deux rives de la Méditerranée. Il y a arabes, algériens et musulmans. Comme diraient les bonnes langues bien intentionnées, il a tout pour plaire. Vous posez les bases. Et pourtant, il est devenu mon meilleur ami. Je suis français, catholique, mais basque. Très important le mot basque, car tout a démarré à cause, ou plutôt grâce à un béret basque. Nasser m'a accueilli 2 années en suivant chez lui, comme si j'étais un membre de sa famille. Ça, vous en aviez déjà parlé, puisqu'on avait fait une belle interview.
Oui.
J'ai partagé le ciel avec lui. Vous nous expliquerez ce que c'est,
oui,
de partager le ciel.
Oui.
Il a ouvert son cœur et sa maison. Il m'a fait découvrir son pays, l'Algérie, avec sa culture, ses us et coutumes, ses monuments, sa cuisine et par-dessus tout, la gentillesse des Algériens. C'est un livre qui fait, voilà, c'est un joli pavé, hein. Il fait 293 pages.
Oui.
Donc, c'est un joli pavé.
En format A4, donc, qui est un peu grand, mais bon, qui est plus pratique pour moi pour écrire.
Voilà. On va parler, hein, on va partir un peu la genèse de ce livre et de cette amitié hors norme. Ça débute grâce, je crois, de mémoire, aux réseaux sociaux.
Voilà, grâce à Facebook. Voilà. Quand j'ai édité les premiers livres, bon, j'ai fait des émissions de radio et tout ça, des reportages au Pays Basque, puisque l'un des quatre là parlait de, enfin, c'était ma biographie, si vous voulez. Donc là-bas, j'ai eu pas mal les journaux, les médias du Pays Basque et tout ça, donc avaient parlé du livre et tout ça. Donc à la suite de ça, j'ai eu, vous savez, les demandes d'amitié entre guillemets, comme on dit sur Facebook.
Oui.
Et pas mal de Basques. Et lui, aimant, à la suite de ce béret basque que son père lui avait offert quand il était petit, il a une fascination pour le Pays Basque. Donc, sur Facebook, donc il y était déjà, et là, il demandait à être ami avec beaucoup de Basques. Et à un moment donné, j'ai reçu une invitation d'un Alyosha. Bon, Alyosha, ça parlait pas trop, bon, un pseudo, et... Avant de répondre par l'affirmative, je regarde.
Vous avez consulté
les amis
profil.
Communs, éventuellement,
ah oui.
Les profils.
Oui.
Et il avait 4 ou 5 amis communs du Pays Basque. Je me suis dit, bon, je peux faire confiance puisque, donc, j'ai accepté. Et, donc, quand j'ai accepté, aussitôt que j'ai accepté, il m'a interpellé sur Messenger, donc, en privé. Et alors, il était très content, voilà, ravi, mais alors, il me dit, oh, votre nom, c'est vraiment un nom basque, j'adore le Pays basque, la culture basque, les couleurs basques. Alors, je dis oui, avec ce nom, je ne veux pas renier mon pays. Et alors, j'ai dit, et vous, Alyosha? Bon, Alyosha, je lui dis, c'est peut-être slave ou consonance, je sais pas, d'un pays...
Pays de l'Est.
De l'Est, oui. Alors, je lui dis, est-ce que vous êtes un descendant, ou enfin, vous avez de la famille, voilà, du pays de l'Est. Et alors, c'est quand j'ai reçu sa réponse que j'ai éclaté de rire. Et ma femme qui passait par là, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as, tu ris tout seul? Et je dis, non, non, écoute, c'est le premier ami arabe que j'ai sur Facebook. Et alors, il me dit non. Alors, quand il m'a dit non, je m'appelle... bon, il m'a donné son prénom non complet, Nasser de Mozama. Je suis algérien. J'habite à El Milia, donc une ville d'Algérie. Et je suis musulman. Waouh! Alors là... C'était, non, je dis pas...
Surprenant, oui.
Oui, très surprenant, quoi. Et alors, la première question qu'il m'a posée quand on... Ben, il a voulu parler sur WhatsApp, enfin, sur le, en vidéo,
oui.
De suite, que j'ai accepté, il me dit... la première question, qui est une des premières, il me dit, est-ce que vous pratiquez une religion? Alors, je lui dis, oui, je suis catholique pratiquant. Ah, c'est bien, moi, je suis musulman pratiquant. Et j'apprécie, parce que vous savez, nous, les musulmans, les athées, on est un peu réticents.
D'accord.
Et oui, oui, oui.
Il vous a préféré d'une religion autre que la sienne,
oui.
mais avoir une religion,
voilà,
et ne pas avoir honte de le dire.
Voilà, ils ne conservent pas quelqu'un qui ne croit en rien.
D'accord.
Ça
les heurte.
Ah oui, ça, voilà. Alors donc il me dit, est-ce que ça vous gêne que d'avoir de communiquer avec un musulman rare et tout ça? Je dis pas du tout. Donc c'est parti comme ça, petit à petit. Donc on s'est parlé donc en direct sur la visio et voilà, ça fait 8 ans au moins que ça dure.
Alors ça fait 8 ans, mais il vous a invité chez lui. À découvrir son pays, sa religion, de discuter un peu également de la vôtre, de vos croyances, avec beaucoup de respect et beaucoup d'amitié. Comment vous avez été reçu quand vous êtes... Est-ce que vous aviez une appréhension d'abord pour aller en Algérie?
Oui, quand j'ai parlé, quand il m'a invité et que j'en ai parlé, bon, à la chorale ou les amis ou les connaissances que j'ai, parce que bon, j'ai l'habitude de voyager, j'étais en Argentine, un peu partout aux États-Unis et tout ça. Et alors, il me disait, bon, tu vas où cette année? En Argentine, en Espagne? J'ai dit, non, vous n'avez jamais deviné. Ah ben, et où? Mais je pars en Algérie. Quoi? Mais tu es fou? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tout le monde, ils étaient affolés. Comme si, ben, je sais pas, comme
vous,
s'il y avait
vous allez voir le diable.
Ah oui, mais non, vraiment, ça a été, alors quand je lui racontais ça, Il me dit, surtout, rassure-les, dès que tu as sorti le premier pied de l'avion, tu as ta garde prétorienne autour de toi, tu ne risques rien. Et effectivement, j'ai été reçu d'une façon extraordinaire, que ce soit sa famille, parce qu'il m'a logé, j'ai logé chez lui pendant la première année. Je suis allé en 2022, 2023, deux années en suivant. Première année, je suis resté une douzaine de jours, et la deuxième année, trois semaines. Et mais j'ai été accueilli par sa famille, ses enfants, sa femme, ses frères, enfin tout le monde, ses amis m'ont accueilli, mais alors vraiment d'une manière extraordinaire.
Vous auriez pu imaginer un jour vivre ça ?
Ah du tout, du tout. Ah non, 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 parce que je n'aurais jamais eu l'idée de moi-même d'aller faire un voyage en Algérie, comme beaucoup d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est bon, il y a pas beaucoup de tourisme, c'est assez fermé et très même bon. Mais non, non, jamais, jamais, jamais. Non, non. Et comme on dit, l'occasion fait le larron. Et bien, écoutez, je ne regrette absolument pas.
Alors, ça a été. Souvent, effectivement, malheureusement, on parle souvent de la religion musulmane avec tout ce qui s'est passé. On a vécu bien sûr les attentats, mais vous allez nous dire que c'est pas la religion musulmane.
Non, du tout, du tout.
Pas du tout. C'est autre chose. Ce sont des extrémistes, comme il peut en exister dans d'autres religions. Ouais. Là, vous avez eu quelqu'un tolérant avec qui on peut discuter. Et qui vous a pris tel que vous êtes.
Oui, oui, et puis il est ouvert, il est vraiment très ouvert. Mais lui, il est de la culture française, parce qu'il a eu des professeurs français et tout. Bon, il a 63 ans. Et donc, il pratique la langue française, même des fois mieux que moi. Il y a des termes que j'emploie peut-être une fois tous les 10 ans. Lui, il est comme ça dans la conversation courante. Ah oui, non, mais il connaît tous les grands auteurs français. Il a beaucoup lu. Ah non, il a une culture extraordinaire.
La France et l'Algérie ont une histoire, malheureusement, où il y a eu une guerre, où il y a encore même entre les gouvernements.
Oui,
entre,
en ce moment,
c'est un peu. Et on fait fi de tout ça, là.
Ah là là, ah non non, complètement. Même dans son entourage, c'est même maintenant, ses amis, c'est sa famille, tout le monde. Et Philippe, comment il va et où est-ce qu'il est, est-ce qu'il revient, tu sais, on l'aime bien, tu sais, voilà. Ah non, vraiment, je m'attendais vraiment pas à un accueil comme ça.
Revenons donc à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce livre. Donc voilà. Vous racontez un peu cette histoire à travers ce livre. Vous avez voulu aussi mettre avec des mots et 293 pages, qui est très illustré avec beaucoup de photos. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre, en fait ?
Bon, au début, j'explique un peu comment on est devenu amis, donc comme je vous expliquais par le réseau social. Et ensuite, je mets un peu aussi les similitudes et les différences que nous avons donc avec...
les religions.
La religion musulmane et la religion catholique. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes. On a parce que Jésus pour eux, c'est un prophète. Marie, voilà, ils vénèrent Marie. Saint-Augustin, qui sort de là-bas. Saint-Augustin, alors ça, ils aiment beaucoup Saint-Augustin. Et non, il y a beaucoup de Abraham, tout. Bon, c'est des similitudes, quelque chose qu'on a en commun. Et par contre, après, il y a des différences.
Oui.
Il y a des différences, bon, la Trinité, tout ça, et d'autres différences, voilà, qui comme,
Vous êtes questionnés tous les deux sur vos religions, sur
tous les jours, mais il m'en parle pas tous les jours, des sourates du Coran, oui, tu sais, il y a une sourate qui dit dans le Coran que si et ça, alors après, je lui dis, mais Nasser, on a la même chose, nous, on a, dans la Bible ou les évangiles, on lit, ben, oui, c'est vrai. Alors des fois je le contrarie un peu et puis à la fin il se rend compte, il rigole, il me dit ah tu m'as poussé dans mes derniers retranchements.
Il y a toujours du respect entre vous quand vous échangez sur un dossier. On sait qu'il y a des familles qui des fois qui se fâchent pour de la politique, pour de la religion, pour plein de choses. Et bêtement quelque part là non.
On échange. Même je lui dis parce qu'il m'a dit oh, tu sais dans le Coran il est dit que l'islam c'est la dernière religion qui existera dans le monde et après la religion catholique après Jésus. Ah, j'ai dit oui mais tu sais les Basques en tout cas au moins les Basques les anciens on a la religion catholique comme ADN et Nasser l'ADN. Dans un individu, on peut pas changer l'ADN. Alors il rigole, il dit oui, bon, que c'est vrai. Non, il respecte, c'est vrai que.
Vous avez fait aussi des voyages avec lui. Il vous a fait visiter son pays.
Ah oui,
il
oui,
vous
oui,
a fait
oui,
voir des choses incroyables. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Bon, c'est la première des choses, c'est les plages. Il y a des kilomètres et des kilomètres de plages. Et vous avez peut-être deux personnes là. À 2 kilomètres, vous avez 2 autres personnes. Et ainsi de suite. Ah, mais c'est incroyable. C'est resté assez. Il n'y a pas de construction. Il n'y a pas de béton. Il n'y a pas comme il existe sur des côtes françaises ou ailleurs. Et tout ça, ça n'existe pas. Donc, voilà, c'est vierge un peu de toute intrusion touristique parce qu'il n'y a pas. Mais ça m'a. Et en plus, découvrir les villes romaines. Les ruines des villes romaines, alors là, j'en suis resté. Et vraiment, des villes entières, mais presque aussi grandes que Lourdes, c'est avec des ruines et tout, comme il y a Gemilla, il y a Tintilis, enfin, il y a beaucoup de sites comme ça, mais extraordinaire. Et il y a combien sur tout le site? Il y a 10 personnes peut-être qui visitent le site.
Et ah oui,
et puis l'accueil des gens. Il arrive, il dit, voilà, c'est Philippe, mon ami basque. Ah, même la police, le chef de la police, parce qu'il faut s'enregistrer, c'est très quand même bien suivi et tout. Il faut s'enregistrer en arrivant, il faut beaucoup de papiers, tout ça. Et même, bon, j'étais reçu par le chef de la police qui m'a dit, ah, bienvenue chez nous. La deuxième année, on est tombé sur le même. Il m'a fait l'accolade et tout.
Ah oui, d'accord.
Et, ah oui, non, mais vraiment, bon séjour chez nous. Vraiment, on est content de vous recevoir. Et, non, mais c'est, vraiment, je...
Vous avez été surpris.
Oui, complètement.
En page 5, vous marquez, je suis catholique, hein, il est musulman et, 3 points de suspension, il m'appelle mon frère.
Oui.
C'est quelque chose qui vous a marqué pour que vous le mettiez.
Ah oui, vraiment, oui, parce que bon, pour que quelqu'un, voilà.
Alors, ce livre, vous l'avez écrit et vous l'avez édité en auto-édition.
Comme les autres.
Je rappelle son titre, et après les Romains, un Basque ou un catholique chez les musulmans. Vous allez le déposer dans plusieurs endroits, dont la librairie Le Square à Lourdes.
Voilà, oui, qui a accepté de le prendre en dépôt. Pour l'instant, après, il faut que je vois si je peux le déposer ailleurs. Voilà, ça, je les ai juste reçus hier, donc voilà, c'est tout frais encore.
C'est tout frais. Donc, il sent gros l'encre. Hein.
Oui, voilà. Donc, je vais commencer les démarches. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine.
Et si on peut, et si on est intéressé pour vous contacter, hein, pour l'acheter, pour à combien il est d'ailleurs,
tiens, le prix. Il est à 25 €.
25 €.
Voilà.
Si
oui.
On veut se le procurer, on peut. Comment on peut rentrer en contact avec vous?
On peut, oui, par Facebook ou bien par mon email aussi.
On va le donner.
Oui, voilà, c'est philippe.irigoyen. Alors Philippe, bon, le prénom, .irigoyen, IRIGOYEN, @orange.fr.
Orange.fr. Voilà. Philippe.irigoyen, IRIGOYEN, ça va. Pour un nom basque, il est assez facile à écrire. @orange.fr. Et là, on peut vous demander des précisions ou carrément, voilà, se le faire envoyer.
Voilà, ou venir même, voilà, je les vends directement aussi, ou je peux même les envoyer, même les autres. J'en ai envoyé pas mal. Il m'est arrivé d'en envoyer aux États-Unis, en Argentine, en Espagne, voilà, suivant les demandes.
Et donc, vous avez écrit avant, donc, 4 autres. Hippolito Irigoyen, président basque.
Voilà, oui, en Argentine.
Mon père, ma mère, ces inconnus qui m'ont abandonné.
Ça, c'est ma biographie, mon
c'est
histoire.
C'est votre biographie, votre histoire. Voilà. Vous étiez venu déjà nous
oui,
le raconter.
Oui. Celui-là était bien, dans mon village qui est Saint-Étienne-de-Baïgorry. Je crois que dans chaque maison, il doit y en avoir au moins, ce n'est 2. Ça a été.
19 ans parmi les Chinois. J.B. Echeverry, c'est.
Ça, c'est donc ma femme qui est restée 19 ans missionnaire. En Chine et qui avait été chassée. Comme beaucoup de missionnaires, par Mao Tse-tung, voilà. Il avait écrit un petit truc que j'ai retranscrit et j'en ai profité pour ajouter sa biographie.
Ben oui, celui-là, je le connaissais pas.
Voilà,
et
oui,
puis
oui.
Le dernier, vous étiez aussi avec un autre grand ami à vous, Tito.
Voilà, oui,
Tito
oui.
Riellan, Christophe et Tito Riellan, peintre connu et reconnu.
Voilà.
Et on avait fait, je me souviens, quelques chroniques avec lui.
Voilà, même pour les expos aussi, vous nous aviez reçus deux reprises.
Merci beaucoup, Philippe Irigoyen. Vous ferez d'ailleurs le cadre d'un jour un livre en auteur avec Philippe Venoni et Diego Rabal, où on rentrera plus précisément dans votre livre. Donc, si on veut se le procurer, on peut aller à la librairie du Square, à Lourdes. Voilà, voilà. C'est en face du Palais des Congrès, de la mairie, oui, oui, Palais des Congrès, oui, pas très loin. Voilà. Ce livre s'appelle « Après les Romains, un Basque ou un catholique chez les musulmans ». Philippe Régoyen, merci beaucoup d'être
merci
venu
à vous de
présenter
votre livre. Si souvent.
Oui, mais c'est un vrai plaisir. Et puis, ben, ce livre, nous, je me souviens de vous aviez organisé une interview là-bas. Je vous avais appelé, vous étiez à côté de nous, voilà. Et on avait échangé et on sentait quelqu'un de très heureux et même très touché d'être à Lourdes.
Ça, il me dit, quand tu verras Philippe, tu lui diras bonjour, j'ai gardé un très bon souvenir, j'espère qu'un jour je viendrai, que je le rencontrerai, ben j'écoute, il ne tient qu'à toi.
Ça sera avec un grand plaisir, c'est un homme de cœur, on n'en doute pas. Merci beaucoup Philippe Régoyen.
Merci
puis,
à vous.
Bon succès pour ce livre.
Merci beaucoup.
Présence à Aurignac, 94.1.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous.
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des Assurances. Plus d'informations sur leur site.
Nous bouleversons un petit peu effectivement les programmes de présence en ce 8 décembre dont nous allons retrouver tout de suite l'émission que nous propose chaque semaine Mathias Terrier dans deux passages à Lourdes. Et puis sachez que à 13h il n'y aura pas de journal de Radio Vatican. Ben pour Rome aujourd'hui, ben c'est férié, donc le personnel est en congé, donc il n'y aura pas de journal de Radio Vatican à 13h ni ce soir à 18h. Notez-le, c'est pas la peine d'appeler pour dire que vous n'avez pas Radio Vatican, il y aura de la musique à la place. On est désolé, c'est pas qu'il y a une panne, mais ils sont à vacances en Italie. Pour Radio Vatican, c'est férié en ce 8 décembre. On retrouve tout de suite Mathias Terrier, et puis on sera avec Monseigneur Perrier dans quelques minutes. Monseigneur Perrier qui nous parlera il parlera de la béatification du Père Pascal Vergès qui aura lieu le week-end prochain à Notre-Dame de Paris.
Présence.
De passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage au pays des vertus. Alors, c'est vrai que le titre de votre ouvrage, Père Jean-Yves Ducournau, atterrissant dans le contexte actuel, peut presque paraître provocateur. Voyage au pays des vertus, oh là là, un prêtre qui nous propose ce voyage-là. C'est le titre de votre dernier ouvrage, paru chez Salvator. Et nous allons peut-être, ensemble, essayer de mieux comprendre ce que ces vertus dont vous parlez, les sept, et d'autres encore, oui. Puisque vous avez été aumônier militaire et vous parlez de vertus de l'uniforme. Nous verrons ce dont il s'agit. Eh bien, nous verrons comment ça peut être, dans le monde actuel, jouable, de se replonger dans ces réalités. Trois vertus dites théologales, foi, espérance et charité, et puis les vertus dites cardinales, c'est-à-dire la prudence, la tempérance, la justice et la force. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, Père Jean-Yves Ducournau, d'écrire ce livre sur les vertus? Vous en aviez vous-même besoin?
Ah oui, ben je pense que c'est nécessaire de raviver la flamme de la vertu. Mais c'est vrai qu'auparavant, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Voyage au pays de ton âme », qui était une lettre ouverte au lecteur pour lui dire qu'il avait, selon saint Augustin, un corps, un esprit et une âme. Et en fait, là, c'est un peu le tome 2, c'est l'habillage de l'âme avec ses vertus que j'appelle finalement des armes pour la vie. Parce que la vie est un combat et les vertus sont là aussi pour combattre toutes les désillusions menées par les vices.
Alors quand je vous dis un titre peut atterrir dans un contexte et paraître presque provocateur, lorsque on écoute certains commentateurs qui décrivent notre société actuelle, ils disent en gros des réflexes tribaux, identitaires, l'individualisme, l'égoïsme, œil pour œil, dent pour dent, parfois même. Et puis, quand on regarde les faits divers, on peut être un peu effrayé. Les réflexes qu'il y a aussi en termes de délation, de pugilat même sur le web, sur les réseaux sociaux. Bref, on peut avoir une description assez apocalyptique de notre société actuelle. Et vous, vous nous dites voyage au pays des vertus.
Absolument.
Alors, vous n'êtes pas un peu naïf, cher père?
Peut-être, mais je garde cette naïveté, comme finalement une chose positive. Certes, vous avez raison de décrire ce monde tel qu'il est présenté souvent dans les médias et dans les réseaux sociaux comme un monde qui manque de respect, qui ne.
Il n'y a pas de prudence, il n'y a pas de tempérance.
Je crois que
la
si.
Justice parfois elle se fait même médiatiquement.
Oui, mais c'est vrai qu'on parle souvent de choses vilaines dans le monde, mais on en oublie les choses bien. Et moi, je veux rappeler que ces choses bien, elles construisent le monde. Et qu'elles sont à la base de nos relations.
Et qu'elles sont vécues.
Et qu'elles sont vécues. Et que si elles ne sont pas assez vécues, elles peuvent être davantage vécues.
D'accord. Et c'est accessible à tout un chacun.
Oui, alors même si c'est une édition, je dirais, Salvatore a plusieurs catalogues hein, de philosophie, des catalogues ouverts un peu au grand public. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu demander à un ami qui s'appelle Éric Delassus, qui est philosophe, adepte de Spinoza, de faire la préface pour montrer que les vertus, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux cathos bien-pensants. Tout un chacun doit vivre de ses vertus. C'est pour ça qu'il y a les vertus dont vous avez parlé, hein, les vertus cardinales. Mais il y a pas que ça. Il y a d'autres vertus. Après, il y a les vertus théologales effectivement qui sont plus orientées pour le croyant, pour le chrétien. Mais je parle aussi de ces, vous l'avez souligné, les vertus de l'uniforme, parce que bon, c'est vrai que pendant près de 30 ans, j'ai été au sein de l'armée comme aumônier militaire, avec notamment la Légion étrangère, donc je parle un petit peu de toutes ces vertus et je m'adresse à des personnes qui ne sont pas cathos. Quand je suis aumônier militaire, je m'adresse à tout le monde. J'ai affaire à des gens qui sont généreux. Donc on part d'une générosité, de quelque chose, d'une base. Un jeune qui entre aujourd'hui à l'armée, il n'entre pas parce qu'il voit de la lumière dans un studio. Il entre parce qu'il a envie. Il a envie d'être, de servir. Voilà. Donc après, il faut purifier, il faut nettoyer un peu tout cela, toutes les scories de ce désir. Mais il y a à la base une générosité. Donc déjà, il y a une vertu. Voilà. Et donc cette générosité, elle doit être travaillée et elle doit être finalement honorée. Et à partir de là, on lui apprendra à vivre d'autres vertus liées à cette générosité. Donc cette générosité peut aller jusqu'au don de soi, jusqu'au sacrifice, etc. Et beaucoup d'autres vertus de ce sens, mais elles ne sont pas exclusivement liées aux vertus aux soldats qui portent des armes. J'élargis un peu le concept de l'uniforme. Hein, pour moi, les infirmiers ont un uniforme aussi. Ils n'ont pas d'armes. Ils ont l'arme de la bonté seulement, hein, l'arme de la disponibilité. Mais ils sont aussi dépositaires de ces vertus parce qu'ils donnent aussi beaucoup de leur temps, beaucoup de leur vie auprès des malades. Et parfois, il y a un retour violent. Hein, et ils connaissent, on a eu des exemples, notamment pas loin d'ici, à Pau, d'une infirmière qui avait été assassinée. C'est pour ça que je les mets dans le, je dirais, au même rang que les autres, parce que il y a une générosité qui est là aussi, et c'est pour ça que ces vertus sont, à mon avis, indispensables et nécessaires, et elles sont pour tous. Même celui qui se dit c'est pas pour moi ce livre, parce que les vertus tout de suite ça fait peur, parce que c'est un terme de philo peut-être, ça renvoie et pourtant c'est si simple. C'est si simple d'être généreux, c'est si simple d'être bienveillant, c'est si simple d'aider son prochain. Voilà, et tout cela ça fait partie finalement des vertus.
Donc à ces vertus de prudence, tempérance, justice et force, vous y ajoutez ce que j'appellerais presque des valeurs. Des valeurs d'abnégation, de sens du service, de sens de l'honneur, tout ce que vous décrivez, oui, au fond, oui, qui peuvent habiter bien des métiers, bien des missions et des fonctions dans notre société.
Oui, parce que bon, j'aime bien le mot valeur, mais je préfère le mot vertu parce que ça renvoie au latin virtus, qui veut dire une force, c'est-à-dire une force, donc un combat, quelque chose, une arme positive pour un combat. Et c'est vrai que lorsqu'il y a un combat, il y a un ennemi. Et j'en parle dans le livre en disant que s'il y a un ennemi, il faut le savoir le nommer.
Et l'ennemi, c'est le diviseur.
Voilà. Le diviseur dont les armes sont les vices. Donc, les gens sont plus ou moins conscients de cette présence du diviseur. Nous, dans le christianisme, on n'hésite pas
à nommer.
À le nommer. Le Christ le nomme. Le Christ le nomme, et chaque fois qu'il le nomme, finalement, il donne ses armes. Le diviseur, Satan, le démon, etc. Tout cela, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire qu'il y a des armes particulières pour chaque catégorie. Nommer le démon, c'est aussi avoir un pouvoir sur lui. Et donc, à partir de là, ce pouvoir sur lui nous est donné par le Christ qui nous donne ses forces. Qui nous donne, il s'est incarné en nous justement pour que nous soyons revêtus de sa gloire et donc de son de sa force.
Vous dites, Père Ducournau, que c'est accessible à tous. Alors comment on y accède? C'est la force de la volonté? C'est un travail sur soi? C'est une force intérieure? Alors, c'est la prière.
Tout cela, c'est valable, mais je pense qu'il y a aussi la force du voisin, c'est-à-dire le témoignage. Regardez quelqu'un qui est bienveillant, qui fait du bien, qui prend du temps pour les autres, ça marque. Et c'est pour ça que le témoin est important, même si il le fait d'une manière naturelle, mais c'est d'abord ça. Et ça, je pense que c'est la première façon de faire découvrir à l'autre qu'il peut faire la même chose, qu'il est vertueux. Nos exemples, l'Église nous donne des modèles, non pas pour les imiter vaille que vaille, mais parce qu'il trace une route. Voilà, les deux derniers canonisés, Frassati et Acutis, montrent que voilà, c'est dans la vie courante, le fait de ouvrir ses yeux sur le monde et ouvrir ses yeux sur ceux qui l'habitent et les plus pauvres, voilà, c'est un témoignage et ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Donc après tout cela, effectivement, ça meut la volonté, ça fait travailler la volonté. Pourquoi je ne serais pas bon? Voilà. Pourquoi je serais mauvais alors que je peux être bon? D'autres sont bons. Pourquoi je ne prends pas le même chemin? Donc ça, c'est un peu la volonté dans ma liberté, dans mon libre arbitre. Le libre arbitre n'est libre que justement s'il s'oriente vers le bien. Sinon, il est enfermé. Le livre de Deutéronome nous parle de cela. Donc à partir de là, effectivement, ce libre arbitre, c'est de donner à sa volonté le bien.
Les modèles médiatiques actuels, ou en tout cas ceux qui sont mis en exergue par les réseaux sociaux, mais aussi par les algorithmes, l'intelligence artificielle, ce qu'on voudra, ce qui est poussé, c'est plutôt quand même la force, l'asservissement, la puissance, oui. L'argent. Vous conviendrez que le combat paraît presque naïf.
Le combat a toujours... Inégal. Non, il n'est pas naïf, mais inégal. Il a toujours existé. Saint Paul lui-même décrit la foi comme un combat. Donc, ce n'est pas nouveau.
Oui.
Le disciple de Jésus se heurte sans cesse aux forces du mal. Et donc, à partir de là, effectivement, il doit orienter sa vie en fonction du seul influenceur qui soit, c'est-à-dire le Christ. Les influenceurs, bon, il n'y en a qu'un pour nous, c'est le Christ. Donc, et c'est celui-là. C'est celui-là qui est, pour le chrétien, c'est celui-là qui est notre boussole. C'est celui-là qui est notre balise de lumière. Il n'y en a pas d'autre. Après tout le reste, ce sont des modèles, des manières d'exprimer ce que le Christ a vécu. Donc, effectivement, alors ne pas tomber dans ce piège. Benoît XVI disait que dans les réseaux sociaux, il y a du bon. Voilà. Eh ben, il faut profiter de ce bon. Moi, j'ai une chaîne un peu ridicule sur YouTube, hein, avec mes 100 ou 200 suiveurs, c'est tout. Followers, c'est en anglais, donc suiveurs, c'est bien. Voilà. Bon, ben voilà, comme j'ai dit, je vais pas tomber dans le piège de l'image, c'est-à-dire me mettre sur un surf en maillot de bain pour parler de Jésus. Je reste comme je suis, voilà. Mais donc à partir de là, effectivement, il y a des choses bien dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc ne pas tomber dans le piège d'être noyé par les choses mauvaises.
On sent qu'à travers ce livre, vous voulez aussi, d'une certaine façon, rendre hommage à tous ceux qui ont la force de vivre de ces vertus. Alors même qu'il y a des vents contraires, hein, on vient de le dire,
oui.
Que c'est pas si simple que ça, qu'il y a des gens formidables quoi, dans ce monde qu'on ne sait peut-être pas voir, pas mettre en exergue.
Dont on ne parle pas.
Dont on ne parle pas.
Voilà, mais le bien ne fait pas de bruit. Mais le bruit ne fait pas de bien. Donc à partir de là, le bien travaille, le bien construit la vie, et le bien, il est constitué quoi de ce que le pape François rappelait dans son encyclique Fratelli Tutti, d'amitié et de fraternité.
Le livre s'intitule Voyage au pays des vertus. Il est signé Jean-Yves Ducournau. Vous êtes prêtre. Il est paru chez Salvatore. Et j'ai envie de vous dire que dans la deuxième partie de cette émission, nous allons aborder peut-être un formidable exemple de ce livre dont nous venons de parler, c'est-à-dire un ouvrage que vous avez commis sur Saint Vincent de Paul. Parce que j'aurais dû dire que vous êtes finalement alors peut-être pas dans la droite ligne, vous nous direz, mais en tout cas, vous êtes un enfant, un fils de Vincent de Paul, puisque vous faites partie de cette congrégation de la mission, qu'on appelle aussi les Lazaristes en France, et dont le fondateur est justement Saint Vincent de Paul. À tout de suite.
À tout de suite.
Présence.
De passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Merci Jean-Yves Ducournau de nous rendre visite pour nous parler à la fois des vertus, puisque vous proposez dans votre dernier ouvrage paru chez Salvatore, Voyage au pays des vertus. Avec cette idée que face aux vices, face aux souffrances et aux difficultés de ce monde, peut-être peut-on se ressaisir à frais nouveaux. Des vertus théologales, alors pour le croyant, c'est évidemment des vertus qui habitent normalement sa démarche de foi, espérance et charité. Et puis des vertus dites cardinales, c'est-à-dire la prudence, la tempérance, la justice et la force. Et vous, comme bon aumônier militaire, expérience de combien, 30 ans ?
Oui, alors, une petite trentaine d'années, oui.
30 ans comme aumônier militaire, vous dites il y a aussi des vertus de l'uniforme.
Oui.
Et vous avez eu cette ouverture dans la première partie de cette émission en disant l'uniforme, c'est pas que l'uniforme militaire. Ce sont tous ces gens qui ont plein d'abnégation, le sens du service.
Oui, qui servent les autres.
Qui servent les autres.
Oui.
Et qu'on n'érige pas forcément en grande vertu, ni théologale, ni cardinale, mais qui sont des vertus, tout de même. Donc ce livre nous permet de prolonger sur un autre qu'on vous a commandé, j'oserais dire, sur Saint Vincent de Paul. Parce que il est votre saint patron.
Oui.
Même si vous appelez Jean-Yves.
Oui.
Votre saint patron, c'est Vincent. Monsieur Vincent.
Voilà. Monsieur Vincent, oui. Qui me suit depuis l'âge de 6 ans. Ou que je suis depuis l'âge de 6 ans, quand j'étais élève au berceau de Saint Vincent de Paul, à l'époque où c'était. Ça a changé de statut, c'était un orphelinat. Et bon, parce que j'ai été recueilli par des familles. Et donc, j'ai été recueilli aussi par les Filles de la Charité et la Congrégation de la Mission. Dès l'âge de 6 ans.
Et donc vous êtes pétri de cette spiritualité. Vous êtes prêtre de la mission, donc ça veut dire que vous êtes lazariste. Vous faites partie de cette congrégation fondée il y a 400 ans.
C'est ça.
Par Saint Vincent de Paul.
Voilà, fondée en 1625, c'est pourquoi la congrégation m'a demandé de... des biographies, il y en a plein, hein, mais de faire parler Saint Vincent de Paul d'une manière simple, abordable par tous. Bon, le livre est un peu épais parce que, évidemment, Saint Vincent de Paul a vécu 80 ans. Donc, 80 ans d'une histoire, d'une vie, mais je le mets en scène par l'intermédiaire d'un jeune frère que j'appelle frère Thomas, donc... en référence à l'évangile, qui est curieux, voilà, et qui veut dire didyme, donc jumeau. Donc en fait, à travers les questions du jeune Thomas, c'est les questions peut-être de chacun d'entre nous, mais vous, monsieur Vincent, vous, cher père, bon, j'en ai assez d'entendre ce qu'on dit de vous. Dites-moi, Voilà, dites-moi quelle fut votre vie. Et là, nous sommes aux 4 derniers jours de la vie de Saint-Vincent, donc il prend le temps de raconter sa vie très riche, et des personnages importants viennent le voir, donc Mazarin, Anne d'Autriche, la duchesse d'Aiguillon qui est la nièce de Richelieu, et bien sûr, le plus important, un pauvre qui vient, que Vincent connaît, et qui est reçu par les confrères comme le Christ.
Et donc Vincent de Paul est né en 1581, mm-hmm. et décédé en 1660.
Oui.
Il a vécu donc à l'époque de Louis XIV,
il a vécu,
Richelieu.
Il a connu Henri III, Henri IV, Louis XIII et le jeune Louis XIV, puisqu'il est mort en 1660.
Donc juste avant l'avènement de Louis XIV.
Oui, et celui-ci était déjà là. Parce que Vincent de Paul faisait partie de ce qu'on appelle le Conseil de Conscience, qui était un peu le ministère des affaires religieuses de l'époque, où il y avait Mazarin, mais il y avait aussi Anne d'Autriche et le jeune Louis XIV. Et lorsque Vincent entrait dans la salle, il avait reçu ce titre Monsieur Vincent en hommage à toutes ces
actions
charitables.
C'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur Vincent.
Oui.
C'est un titre.
C'est un titre reconnaissance de son bienfait pour l'État, le père des pauvres. Et Louis XIV et la reine Anne d'Autriche se levaient à l'arrivée de Saint Vincent, donc durant le Conseil de Conscience.
Donc Monsieur Vincent était un homme rude, exigeant, audacieux, qui, au milieu des grandes ce monde, était capable d'y aller un peu fort, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire, même comme aumônier des galères, oui, il ose des choses incroyables, il mobilise ce qu'il peut au service de la pauvreté, des pauvres. Qu'est-ce qu'il met en marche, Vincent de Paul? Qu'est-ce qui le pousse à faire tout ça? Parce que c'est un personnage incroyable.
Alors, ce qui le pousse à faire ça, je crois qu'il n'avait pas une foi aveugle. Donc, à partir de là, il était rivé sur le Christ. Puisque, la congrégation qu'il a fondée, a pour statut, finalement, suivre le Christ évangélisateur des pauvres. Donc, suivre. Déjà, on suit quelqu'un qui est un guide, un pasteur. On le suit parce qu'on a confiance en lui. On sait où il va nous mener, on sait qu'il va nous mener vers le bien, et qu'il va nous donner les moyens de vivre ce bien. Suivre le Christ, on sait qui il est. Le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est le prototype de l'humanité, dira Saint Vincent, l'image parfaite de l'homme, mais il porte sur la croix les stigmates de la souffrance. Et donc, à partir de là, il est évangélisateur des pauvres. Il dit lui-même, il fait parler le Christ... qu'êtes-vous venu faire sur terre? Évangéliser les pauvres, mais encore évangéliser les pauvres. Voilà. Donc porter la bonne nouvelle. C'est-à-dire que le souci de Vincent, avant même que les pauvres puissent avoir de la soupe dans leur assiette, c'est la protection, le salut de leur âme. Il y avait cette crainte dans cette époque classique de la damnation des âmes. Et effectivement, dans les campagnes, l'Église était plus ou moins absente. Il y avait pourtant beaucoup de prêtres, mais ceux-ci étaient dans les grosses bourgades ou les villes, et donc n'allaient pas dans les campagnes. Souvenons-nous d'ailleurs de la phrase de Richelieu, quand il a été nommé, quand il était évêque de Luçon. Pourtant, il y a une belle cathédrale à Luçon, mais c'est le diocèse le plus crotté de France. Donc en fait, voilà, il fallait pas marcher dans la crotte. Bossuet, qui a été quand même un élève de Vincent de Paul, avant d'être précepteur du Grand Dauphin, il était évêque de Condom dans le Gers. Il a jamais mis les pieds parce que c'est vraiment loin de tout. Donc en fait, les campagnes étaient délaissées. Donc Vincent s'est penché sur les pauvres des campagnes, grâce aussi à sa châtelaine qui avait des domaines en Picardie, et donc il visitait les pauvres des campagnes avec la châtelaine, et il a été confronté à cette misère spirituelle avant même d'être confronté à la misère, je dirais, matérielle. Mais les deux sont liés, parce que dans les campagnes, la moyenne d'âge était de 25 ans, donc on vivait pas longtemps. Déjà, la nourriture permettait pas de vivre.
Il a beaucoup aidé matériellement, autant qu'il a pu les personnes pauvres.
Oui.
Mais sa mission, celle qu'il habitait, c'était bien une mission d'évangélisation.
Il est prêtre. Il est prêtre et à ce titre-là, bon, c'est pour ça qu'il a fondé des congrégations de laïcs. Hein, au départ, en 1617, il a fondé ce qu'on appelle les Dames de la Charité, justement pour aller porter le soin spirituel aussi, mais le soin matériel, sanitaire auprès des plus pauvres, mais toujours dans l'esprit de la prière. Il exigeait de ces dames, les dames de la cour, qu'il appelait ses sœurs, hein, de prier avec les pauvres qu'elles servait. Et ensuite, et il leur demandait aussi d'aider financièrement ces pauvres. Donc, il les mettait un peu à l'épreuve.
Oui.
Hein, la bourse, il fallait donner. Quand il était à Châtillon-sur-Chalaronne, hein, en 1617, la deuxième partie de l'année, on lui fait savoir qu'il y a un pauvre qui est isolé, qui est malade, eh bien, il va le voir en portant le Saint-Sacrement. C'est un prêtre. Il est capable de porter la soupe, mais sa mission première, c'est le salut des âmes. Et c'est pour ça qu'il fondera aussi avec Louise de Marillac les Filles de la Charité pour que l'évangélisation se fasse aussi par les pauvres. Donc, les Dames de la Charité sont devenues les équipes Saint-Vincent aujourd'hui, qui existent toujours, et les Filles de la Charité existent toujours, hein, depuis 1633, elles sont toujours là. Hein, c'est évangéliser les pauvres par les pauvres, finalement, par l'intermédiaire d'une jeune fille qui est venue frapper à la porte, en disant, voilà, j'ai envie de servir les pauvres, et là, pour lui, c'est un coup d'appel de la Providence, voilà, et finalement, ouf, une lumière de la Providence. Les pauvres vont être évangélisés par les pauvres.
On lui doit aussi la création de l'œuvre des enfants trouvés,
oui,
qui est devenue l'assistance publique aujourd'hui.
C'est ça, oui. Alors là encore, ce n'est pas lui, c'est-à-dire voyant cette misère des enfants abandonnés sur les parvis des églises, voyant cette misère, il exige des dames de la charité et des filles de la charité qu'elles s'occupent de ces enfants parce qu'il existe une crèche. Il existe des abris pour les enfants abandonnés. Mais ceux-ci, n'étaient pas aimés. Voilà. On leur donnait du sirop pour les endormir, pour éviter qu'ils crient, etc. Et parfois, on les vendait à des malfrats qui leur brisaient les jambes, etc. et les bras pour aller équeter. Donc, en fait, Vincent de Paul, pour lui, c'était inadmissible. Pour lui, c'est les enfants de Dieu, c'est l'incarnation, Donc l'amour, voilà, l'amour, leur père, c'est Dieu, et il disait aux filles de la charité et aux dames de la charité, vous êtes leur mère. Voilà. Donc ne les abandonnez pas. Leur mère, charnelle, les a abandonnés, mais ne les abandonnez pas. Sinon, si vous les abandonnez, eh ben, ça veut dire que Dieu les abandonne. Or, ce n'est pas du tout ça. Donc, vous avez à vous occuper de ces enfants et à les aimer. Et donc, il a monté des ateliers, quand les enfants grandissent, évidemment, pour que ces enfants puissent vivre de leur travail aussi. Hein. Il y a le phénomène de l'urgence, mais il y a le phénomène du suivi. Et Vincent de Paul, c'est pour ça que je dis qu'il est, surtout un génial organisateur, parce qu'il puisait les idées des uns et des autres, et il fédérait tout cela, et il a permis à beaucoup de structures d'exister. Il a fondé ces structures dont on a parlé, mais il a fondé plein de petites choses aussi avec d'autres personnes pour le bien des pauvres, parce que malheureusement la misère de tout temps et de tout siècle, elle est inventive à l'infini, et bien la charité doit l'être encore plus.
Merci beaucoup pour cet échange, Père Jean-Yves Ducournau. Je rappelle donc que est paru aux éditions Teki, Saint-Vincent de Paul, Vivre pour le meilleur. Là, c'est une demande que votre congrégation vous a faite,
oui,
pour que vous parliez du saint fondateur de votre congrégation, puisque vous êtes prêtre de la mission, un lazariste, comme on dit, oui, aussi parfois. Et puis, finalement, très lié à cet ouvrage sur Vincent de Paul, ce dernier ouvrage que l'on vous doit, paru chez Salvatore, Voyage au pays des vertus.
C'est cela.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et à bientôt.
Plaisir.
Présence.
De passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Présence à Catus. 92.5.
Bienheureux Pascal Vergès. Un enfant de la Bigorre mort en haine de la foi. Une histoire racontée par Monseigneur Jacques Perrier.
Bonjour. Nous commençons aujourd'hui une série de 5 petites émissions pour nous préparer à la béatification de l'abbé Pascal Vergès, bigourdan pur sucre, pur fruit. Et cette béatification sera proclamée à Notre-Dame de Paris samedi prochain, le 13, grande célébration qui aura lieu donc à 14h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris et qui sera retransmise sur KTO. J'espère que vous avez cette chaîne catholique qui vous permettra de vous associer à la béatification de Pascal Vergès. Bon, alors, ça tombe bien que cette petite série d'émissions commence un 8 décembre, parce que c'est le 8 décembre 1918 que Pascal Vergès, qui avait à l'époque 8 ans, est venu pour la première fois à Lourdes. Et il avait tanné, si j'ose dire, le curé et ses parents pour venir avant, mais c'était la guerre. Bon, et le curé avait promis, dès que y aura l'armistice, on ira. Bon, armistice le 11 novembre, et donc le 8 décembre, le curé et la paroisse vient à Lourdes, et donc la famille Vergès, et pas seulement le petit Pascal, viennent à Lourdes. Et il gardera une grande vénération pour Notre-Dame de Lourdes. Alors, cette béatification de Pascal Vergès aura lieu parmi 50 autres. C'est un groupe de 50 qui va être reconnu bienheureux comme martyr, martyr de l'apostolat, ou on peut dire aussi martyr en haine de l'Évangile. Alors, j'ai employé un mot qui est faux. J'ai dit un groupe de 50. C'est pas un groupe. Il se trouve qu'il y en a 50. Mais ce sont autant de destins un peu particuliers. Tout cela est lié, évidemment, à la guerre, à la persécution nazie, etc. Mais ça se passe un peu dans tous les coins de l'Allemagne. Alors, il y a eu des contacts les uns avec les autres, mais ce n'est pas un groupe, si vous voulez, avec un chef de file spirituel. En ce sens-là, les 50 martyrs de l'apostolat, donc morts, qui sont morts fin décembre 44 et surtout en 45, tout à fait à la fin de la guerre, c'est pas comme les carmélites de Compiègne, c'est pas comme les moines de Tibérine, c'est pas comme les martyrs de Corée, voilà, où il y a un nom en tête et puis on dira et ses compagnons. Non, c'est pas un tel et ses compagnons. Et je pense que hélas ça contribue au fait qu'ils sont peu connus, parce qu'il n'y a pas une personnalité extraordinaire, qui aurait réuni et ranimé la foi, l'espérance et la charité des autres. Non, il n'y a pas de leader. Mais on pourrait faire une accolade entre ces 50 cas, le fait qu'ils ont non seulement été témoins de la foi, mais ils ont été des témoins actifs, donc d'un apostolat, d'où l'expression martyr de l'apostolat. Alors, ces 50, qui sont ces 50 ? L'abbé Pascal Vergès fait partie, sur les 50, fait partie des 10 prêtres. Mais pour l'essentiel, et je pense que le projecteur, s'il y a un tout petit peu d'écho médiatique, sera sans doute braqué plutôt sur les jeunes. Parce que sur les 50, 40 sont très jeunes. Ils ont entre 22 et 25 ans, à peu près. Et on verra pourquoi cette classe d'âge, c'est lié au service du travail obligatoire, les jeunes qui ont été requis et emmenés quasi de force en Allemagne. Parmi eux, il y a 19 jossistes. Je fais l'énumération d'abord. Vous avez 19 jossistes, c'est-à-dire des jeunes militants de la jeunesse ouvrière chrétienne. Vous avez 11 scouts, routiers. Voilà. Vous avez 2-3 indépendants qui ne appartiennent pas à un de ces mouvements. Ensuite, vous avez 3 séminaristes, vous avez 4 novices franciscains, vous êtes parti d'un groupe de 8, 4 qui sont morts, bon, qui sont morts martyrs, etc. Et puis 10 prêtres. Alors, tous les 40 premiers, si vous avez bien fait le compte, ça vous fait 50, les 40 premiers, je répète, sont très jeunes. Parmi les prêtres, il y en aura même un aussi qui sera très jeune, puisqu'il était né en 1922. Donc il est mort, il avait 23 ans, il était encore très très jeune. Enfin, voilà. Donc, des gens très très jeunes. Alors, 19, j'insiste, parce que donc pour le travail obligatoire, ben les Allemands ont demandé plutôt des ouvriers, des gens qui... Bon. Et puis, à l'époque, ben, il n'y avait pas encore beaucoup d'étudiants, il y en avait un peu, mais pas beaucoup. Bon. L'agriculture, ben, il fallait quand même bien cultiver la terre, ne serait-ce que pour nourrir les Allemands. Bon, alors, donc, c'est plutôt le milieu ouvrier. Si j'ai regardé un peu ce qu'avaient fait ces 19 Jossis, la plupart ont travaillé dans des ateliers, dans les métiers les plus divers. Il y en avait pas mal même qui étaient dans le commerce, dans la boulangerie, dans les bouchers, bon, les typographes, alors il y a aussi quelques-uns. Donc c'est extrêmement varié. Et ils font partie donc ce mouvement de la jeunesse ouvrière chrétienne qui avait célébré son 10e anniversaire en 1937 à Paris, au Parc des Princes. C'était un mouvement extraordinairement dynamique. On peut dire que c'est un mouvement apostolique, mais c'est un mouvement profondément mystique. On ne comprend rien à leur martyr ensuite si on n'a pas cette dimension-là. Leur devise à l'époque, c'était fier, pur, joyeux et conquérant. Et l'objectif, c'était « nous referons chrétiens nos frères ». Après la guerre, on a un peu ridiculisé cette formule. L'apostolat chrétien, c'est quand même le désir que faire connaître l'évangile à d'autres, et donc qu'ils redeviennent chrétiens. Voilà. Et donc, on a peut-être beaucoup rabaissé sur cette ambition, mais je ne vois pas comment ça ne serait pas l'ambition chrétienne que les autres connaissent la bonne nouvelle. Voilà. Donc, un mouvement militant très, très intense. Bon. Quant aux scouts, alors, le mouvement en France n'était pas non plus tellement ancien, parce que vous savez que c'est pas à l'origine un mouvement français ni un mouvement catholique. Enfin, il est arrivé en France, il a été reconnu dans sa version catholique dans l'entre-deux-guerres, donc c'était encore un mouvement relativement jeune à l'époque. Et la devise scout, toujours prêt, prêt à témoigner de leur foi. Et puis, ensuite, donc, des séminaristes. Il faut savoir qu'il avait été emmené pour le service travail obligatoire 1500 séminaristes. Il y avait 1500 séministes. Bon, sur trois classes d'âge, des jeunes nés en 1920, 21 ou 22. Bon, trois séminaristes et nos quatre franciscains. Donc, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont une formation chrétienne très, 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 très forte. On peut remarquer aussi, donc, que Jossistes ou les scouts, puis on pourrait dire les quatre novices aussi, ils sont quand même, ils ont des liens. Alors, je répète, les Jossistes, ils n'étaient pas tous au même endroit. Hein. Les scouts non plus, ils sont répartis un peu partout. Mais ils ont fait partie, avant d'être emmenés en Allemagne, d'un mouvement très structuré. Voilà. Et donc, certainement, ça les a aidés. Ensuite, dans leur action, ils chercheront d'une certaine façon à continuer leur action, c'est-à-dire à coopter, à tisser des liens avec d'autres, à refaire des équipes. Enfin, on y reviendra. Alors, comment se fait-il que tout ça a été complètement oublié jusqu'à une date récente? Il faut dire que, bon, ça se passe plutôt tout à fait à la fin de la guerre. Bon. On peut penser à autre chose. Aussi, c'est lié au service du travail obligatoire en Allemagne. Donc, ça n'a pas bonne presse. Bon, le projecteur braquait uniquement sur la résistance armée, celle des maquis, bien sûr. Mais donc on oublie la résistance spirituelle. On pense, ça c'est très bien, à témoignages chrétiens, les cahiers de témoignages chrétiens. On en reparlera dans une émission. Mais cette forme de résistance spirituelle en Allemagne même, hein, par ces jeunes qui seront martyrs de l'apostolat, complètement oubliée. Ça n'a commencé à émerger que dans les années 1980. Pourtant, au moment de la fin de la guerre, le père de Lubac, jésuite, très mêlé donc à témoignage chrétien, Lyon et tout ça, la résistance spirituelle par l'écrit. Voilà, bon. Elle me dit, mais on dirait que l'Église a honte de ses martyrs. Et il pensait à ces jeunes. Objectivement, étaient complètement passés sous silence, même si presque chacun des cas, ils ont connu, etc. Il est mort en martyr, mais dans un sens un petit peu large. Oui, ça n'est sorti que dans les années 80. Alors, ça a abouti tout de même à la béatification d'un 51e, ou disons du premier sur les 51, Marcel Callot. Et Marcel Callot a été reconnu bienheureux par le pape Jean-Paul II à l'automne 1987. pendant le synode des évêques sur les laïcs. Marcel Callot était un breton fiancé, type absolument extraordinaire, dont on a pas mal d'écrits, de lettres magnifiques écrites à sa fiancée, un breton. Donc c'est le premier. Alors, bon, on a pu se dire peut-être à ce moment-là, bah oui, on a complètement oublié qu'il y en avait beaucoup derrière. Les 50 qui seront donc déclarés bienheureux le 13 décembre, 14h30, Notre-Dame de Paris.
Bienheureux Pascal Vergès, un enfant de la Bigorre mort en haine de la foi.
Présence à Saint-Gaudens, 94.1.